Bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis Béatrice Delay du CNEFOP. Alors peut-être juste avant même de rentrer dans la présentation qu'on va vous faire avec Fabienne Cazère de l'ANACT, rebondir sur les deux questions là qui concernaient des zones de recoupement entre la certification et l'action de formation en situation de travail. Par rapport à la loi, sur ce qui concerne la certification, je vais reprendre ce que disait Brigitte, mais avec mes mots. Ce que je comprends du nouveau cadre légal de ce point de vue-là, c'est que justement, il y a une claire volonté de désolidariser de manière beaucoup plus nette ce qui relève de la certification et ce qui relève de la formation. Et que au RNCP, loi avenir professionnel, l'idée, c'est d'enregistrer des certifications et que ce souci de distinguer de manière beaucoup plus claire la formation et la certification, là où hier l'appareil de formation avait parfois des positions monopolistiques par rapport à la délivrance de telle ou telle certification, l'idée c'est de mettre un terme à cette situation-là et précisément en désolidarisant ces deux notions, de permettre de diversifier les voies par lesquelles on accède et on obtient une certification et que la formation ne soit pas le seul levier d'accès à la certification, mais que par exemple la validation des acquis de l'expérience soit un des vecteurs mobilisés pour accéder à une certification. Et donc pour rebondir sur la question qui était posée par rapport au lien avec les AFEST, les actions de formation en situation de travail, ce sont, avant d'être en situation de travail, ce sont des actions de formation. Donc par définition, par construction, j'allais dire, ce n'est pas une certification. Alors après, il y a des certifications, il y a notamment une qui a été déposée à l'inventaire justement dans le prolongement de l'expérimentation, qui est une certification de formateur en AFEST, et qui a été déposée à l'inventaire. Mais un des choix qu'on a fait précisément côté pouvoir public, des GEFP au sens large du terme, État, partenaires sociaux, c'est justement de ne pas créer une barrière à l'entrée, de ne surtout pas rendre obligatoire la détention de certification à la mise en œuvre d'actions de formation en situation de travail. Parce qu'on faisait le pari, l'hypothèse au départ, que ça allait en bloquer le développement. Et l'ambition est précisément inverse. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu aux questions de tout à l'heure, mais... Alors, donc, aujourd'hui, on... À part... Une question ? Oui, oui. Bah... Oui. Oui. C'est un consultant qui a fait partie de l'expérimentation, qui a accompagné plusieurs OPCA dans cette expérimentation, et en particulier un OPCA qui a fait un choix particulier en termes d'organisation, qui était l'AFDAS, qui a choisi précisément de former ce qu'ils appelaient des méta-référents AFEST, issus de différentes entreprises, qui ensuite allaient dans l'entreprise pour être des maîtres d'œuvre, des ambassadeurs, enfin pour être une tête de proue dans la construction des parcours de formation en situation de travail. Et ce consultant formateur a formé ces formateurs FEST, et in fine a déposé la certification à laquelle cette formation a débouché pour ses formateurs.
Et joue son rôle de certificateur. Est-ce que c'était basé sur le référentiel de l'AFNOR des tuteurs ?
Non, alors, voilà, c'est typiquement ça, c'est-à-dire le paysage de la certification, c'est un paysage qui est extrêmement multiple, pluriel, et des certifications au tutorat, au maître d'apprentissage, au formateur de formateurs, etc., etc., il y en a pléthore. Et les formateurs AFES, c'est une des multiples déclinaisons qui peuvent exister aujourd'hui dans le paysage de l'assertif. Raison de plus pour laquelle on n'a pas souhaité en désigner une comme plus vertueuse ou plus par essence avec une valeur supérieure aux autres, et on n'a pas voulu que ce soit une condition sine qua non de la reconnaissance de l'AFES comme une véritable action de formation.
Merci.
Oui, d'autant plus, enfin, on va vous l'expliquer, mais cette certification, en fait, elle a été déposée au début de l'expérimentation. Et l'expérimentation dont on va vous parler, elle visait justement à définir les contours de l'action de formation en situation de travail. Voilà, donc, voilà. Mais après, chaque expérimentation a eu ses apports, ses manières de faire, et c'était ce qui était aussi intéressant. Voilà. Mais bon, je pense que dans la présentation, après, ça va susciter d'autres questions. Et voilà, on continuera à y répondre, bien sûr. Je repasse la parole à...
Juste peut-être avant de... Autre préalable avant de rentrer dans le cœur de l'expérimentation, faire le lien entre cette expérimentation, la FEST, et puis l'approche compétence, qui est un peu la thématique chapeau de cette matinée. Là encore, pour abonder dans le prolongement la lecture que nous proposait Stéphane de la loi tout à l'heure, je dirais peut-être avec mes mots qu'effectivement, l'idée... l'ambition assez structurelle qui est portée par cette loi, c'est non seulement de diversifier le champ des possibles et d'ouvrir le champ des possibles en matière d'investissement dans le capital humain, mais c'est aussi, je le dirais comme ça, remettre la formation à sa place, c'est-à-dire refaire de la formation un moyen et pas une fin en soi. Et à l'inverse, promouvoir la finalité de la formation, qui est le développement des compétences, dont la formation est un des vecteurs parmi d'autres, mais est loin d'être l'unique. Et je pense que pendant des décennies, comme l'a expliqué aussi autrement Stéphane, depuis la loi fondatrice de 71, la formation avait perdu un peu de vue sa finalité, souvent, c'est-à-dire le développement de compétences. Parce que obligation fiscale, qui a généré effectivement une approche comptable administrative de la formation côté employeur, bien souvent, comme une dépense libératoire, ou comme un levier pour acheter la paix sociale, mais en tous les cas relativement émancipé et déconnecté de la finalité de développement de compétences. Et côté actif, une approche de la formation aussi très orientée sur un moment... au mieux récréatif, plus ou moins attractif selon le vécu des uns et des autres par rapport au système scolaire, déconnecté de la transformation de ses acquis en compétences dans la confrontation aux situations de travail. Et de ce point de vue-là, le nouveau paradigme, enfin qui est porté par cette loi, c'est vraiment ça. Je pense que c'est resolidariser d'une certaine manière la formation avec sa finalité, qui est le développement de compétences. Et de ce point de vue-là, c'est une vraie rupture par rapport au chemin tracé depuis des décennies dans le rapport à la formation. Et dans ce paysage-là, qui est effectivement complètement recomposé par ce nouveau cadre légal, pas seulement au niveau des circuits financiers et des modalités de gouvernance, ce qui est le cas de beaucoup des réformes antérieures, qui se sont quand même attaquées d'abord à ça. Là, on est vraiment dans une refonte sur les fondamentaux, dans le cœur du réacteur de ce qu'est la formation. La FEST a effectivement une position particulière, parce qu'elle, quelque part, elle incarne et elle radicalise cette orientation. C'est-à-dire que la FEST, par définition, elle est connectée à la compétence au sens de savoir agir en situation. C'est sa définition même. Et dans sa conception, dans sa façon d'être mise en œuvre, dans sa finalité, la FEST est directement articulée à la compétence. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est, je pense, une bonne entrée pour essayer de faire la démonstration et que collectivement on aille vers cette promotion de la finalité développement de compétences et non pas la formation comme une finalité en soi. Voilà pour cette introduction très très longue. Alors, donc avec Fabienne, on est venu vous présenter justement les résultats d'une expérimentation qui a été une démarche collective de très longue haleine, puisqu'elle s'est étalée sur 2 ans, qui avait vocation précisément à essayer de faire émerger un OFNI, un objet de formation non identifié dans le paysage institué de la forme pro, à savoir la FEST. Puisqu'on est parti d'un constat, on est parti d'un constat très simple. On a regardé quels étaient les types d'actions de formation qui étaient financées sur les fonds éligibles et mutualisés depuis une quarantaine d'années. Et c'est quasi exclusivement des stages hors lieu de production. C'est le modèle archi-dominant qui existe dans le système institué officiel de la formation professionnelle. Ce qui ne dit pas évidemment qu'il n'y a pas des actions de formation en situation de travail qui se développent à droite et à gauche, mais jusqu'à présent, elles existent sous les radars du système juridico-financier de la formation professionnelle. Et ce qui nous, alors ce qui s'explique, hein, ce qui s'explique complètement historiquement, certains spécialistes de cette dimension-là ont bien expliqué comment en France on est arrivé à ce qu'on appelle un modèle séparatiste entre d'un côté le travail, de l'autre côté la formation, et que c'est une caractéristique très française d'appréhender la formation. En Allemagne, par exemple, la formation interne est beaucoup plus développée qu'en France. En France, il y a une frontière historiquement construite très très marquée entre d'un côté la formation et de l'autre l'entreprise, qui s'explique hein, historiquement et par des motifs qui ont leur légitimité, hein, c'est pas la question, mais le droit de la formation a consacré, a précipité ce modèle-là. Pourquoi ? Ben parce que, pour le dire vite, hein, il y a trois raisons principales. Premièrement, une forme de frilosité des instances en charge de contrôler le bon usage des fonds de la formation, puisque quand on est dans une AFEST, on peut craindre que les fonds soient utilisés pour financer des situations de production déguisées, et ça, bien sûr, c'est un des motifs répulsifs, j'allais dire, qui a expliqué que ça s'est très peu développé. Deuxième motif qui fait qu'on est dans un modèle séparatiste dont on essaye de sortir aujourd'hui, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'obligation fiscale, hein, qui a fait que les entreprises ont eu tendance à externaliser leurs responsabilités à l'appareil de formation et à déléguer leurs responsabilités en matière de formation à l'appareil de formation. Et donc, quelque part, à se décharger sur l'appareil de formation de leurs responsabilités en matière de développement de compétences. Et puis enfin, la troisième raison, qui a plus lié là à des histoires de partenaires sociaux et de motifs idéologiques et qui ont aussi leur raison d'être, hein. C'est absolument pas une critique dans ma bouche, mais c'est pour comprendre, dans un souci de compréhension. Et c'est des résistances qu'on a eues, auxquelles on s'est affronté au début de l'expérimentation. C'est une certaine lecture du monde de l'entreprise, qui consiste à dire que le lien de l'entreprise, d'un point de vue juridique, est d'abord traversé par des liens de subordination, que le lieu de l'entreprise, c'est d'abord le lieu d'exercice de la direction, et que du coup, la formation qui poursuit des finalités d'émancipation individuelle doit nécessairement avoir lieu en dehors des murs de l'entreprise. Et ça aussi, c'est un obstacle qui, historiquement, a beaucoup compté dans le fait que la formation en situation de travail se développe très peu en France. Voilà, donc il nous paraissait important d'essayer d'inventer, de caractériser un nouveau type d'action de formation, qui est celui des actions de formation en situation de travail. Donc une AFEST qui soit à la fois reconnue par la réglementation comme une véritable action de formation. De ce point de vue-là, c'est gagné, puisque la loi du 5 septembre, effectivement, consacre dans le dur, inscrit dans le dur, l'existence de l'AFEST. Une AFEST qui soit efficace en termes de développement de compétences, hein, et, ce qui est un point important, praticable par les différentes parties prenantes, à commencer par les TPE-PME, qui étaient la cible principale de cette expérimentation, au moins dans un premier temps de l'expérimentation. Ça ne veut pas dire que demain, évidemment, les grandes entreprises ne pourront pas aller chercher de la FEST, mais la priorité là, désignée par l'État et les partenaires sociaux qui sont à la manœuvre dans cette démarche expérimentale, était centrée sur les entreprises de petite taille. Voilà, donc l'objectif était à la fois de réussir à caractériser de manière collégiale les contours, les conditions de réussite d'implantation d'une action de formation, et simultanément pour toutes les, de s'approprier ensemble ce que pouvait revêtir cette action de formation en situation de travail. Puisqu'on est parti de plusieurs hypothèses qui ont été un petit peu à l'origine de cette démarche, qui était de dire, alors premièrement, c'est un point important ça, hein, puisque ça a pu aussi faire peur à certains, et notamment à des opérateurs de formation, l'idée c'est de dire que la FEST n'a pas du tout vocation à écraser les autres modalités de formation, ou à se substituer aux autres modalités de formation. C'est juste une modalité supplémentaire possible, qui ouvre le champ des possibles justement en termes de format de formation. Et on faisait l'hypothèse que, hypothèse qui ont été confortée largement quand on regarde les motifs d'entrée des entreprises dans cette expérimentation, hypothèse que la FEST pouvait présenter des avantages importants autant pour les employeurs que pour les salariés. Alors on a essayé de les recenser là. Premièrement, le fait qu'on soit sur un modèle d'apprentissage par le faire et que de ce point de vue-là, ce soit un modèle plus attractif pour certains salariés, en particulier ceux qui ont un vécu scolaire d'une formation plus descendante, plus magistrale, un peu difficile. Pour les employeurs, a fortiori les TPE-PME, la FEST permet de contourner la difficulté d'envoyer les salariés en formation, et on sait bien en tous les cas pour que les petites boîtes que c'est un obstacle majeur qui explique leur faible recours à la formation, compte tenu des contraintes de production. La FEST est aussi un moyen pour les employeurs de réussir à satisfaire leurs besoins de compétences là où les compétences disponibles ou accessibles sur le marché du travail ne sont pas de nature à les satisfaire, parce que l'offre de formation disponible ne fournit pas les compétences les plus proches de leurs besoins de compétences, de leur activité, de leurs outils de production, etc. Et la FEST, par définition, par construction, j'allais dire, est connectée à leurs besoins de compétences puisqu'elle se réalise dans l'enceinte de l'entreprise. Autre hypothèse, bien entendu que dans les entreprises, et chacun en fait l'expérience à titre personnel dans son parcours, on apprend en situation de travail, on apprend continuellement sur le tas, en se confrontant à des situations, à des aléas professionnels. Mais l'idée là c'était de dire, on change d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a des parcours d'intégration, de professionnalisation, des apprentissages sur le tas, mais peut-être qu'avec la FEST, qui est une véritable action de formation, donc qui est formalisée à minima, qui est structurée, qui est pensée, on va franchir un cap en termes d'efficacité pédagogique. C'est-à-dire que les apprentissages qu'on peut faire sur le tas sont pas forcément toujours très efficaces parce que justement, ils sont plus ou moins aléatoires, plus ou moins structurés, plus ou moins organisés. Avec la FEST, on bascule dans le monde de la formation, donc dans le monde de la structuration de parcours dont on en attend des bénéfices en termes de compétences acquises. Et puis enfin, ce qui est un item, ce qu'on a placé en dernier, mais qui n'est pas négligeable non plus, le fait que les AFEST, et c'est le cas aujourd'hui grâce à la loi, puissent accéder au rang de véritables actions de formation, ça les rend du coup éligibles. Ça veut dire que pour les TPE-PME, dans le cadre du plan de développement de compétences, elles sont finançables sur les fonds publics et mutualisés, ce qui n'est pas anecdotique quand on examine les freins à l'accès à la formation pour les petites boîtes. Non seulement elles sont finançables, mais puisqu'elles sont éligibles, elles sont également convocables par les employeurs au moment du bilan des 6 ans dont parlait Stéphane tout à l'heure, pour justifier qu'elles ont satisfait à leurs nouvelles obligations sociales en matière de formation. Ce qui est un point très important demain dans la conformité aussi des employeurs par rapport à leurs obligations. Voilà. Et toutes ces hypothèses, effectivement, se sont révélées relativement conformes aux attendus des entreprises. Alors là, c'est un petit graphique qui symbolise un peu, qui vous donne un peu les coordonnées de l'expérimentation pour que les choses soient peut-être plus visuelles. Donc on avait 11 OPCA dans l'entreprise, vous avez les noms sur votre droite, donc vous voyez des OPCA quand même assez diversifiés en termes d'activités, de secteurs couverts. Une cinquantaine d'entreprises, donc une écrasante majorité évidemment de TPE-PME, puisque c'était la cible visée par l'expérimentation, et 70 personnes qui ont été formées par cette expérimentation, et donc essentiellement des peu qualifiés, puisque là aussi c'était le pari qu'on faisait au départ, du moins dans cette expérimentation. Donc vous voyez, on est sur un volume très modeste, une volumétrie très modeste, mais c'était l'idée de cette expérimentation. On était vraiment dans une approche qualitative. Notre volonté, c'était d'essayer de décortiquer le plus finement possible ce qui se passait quand on mettait en place dans une entreprise une AFEST pour être en capacité demain de faire émerger des conditions de réussite, des points de vigilance, pour caractériser le plus finement possible cette FEST pour que après-demain effectivement on puisse connaître un développement quantitatif là important, mais notre entrée était d'abord qualitative. Alors on va passer sur ce que nous a appris cette expérimentation en trois temps différents. Peut-être vous dire les conditions de définition du NAFEST, qu'on va retrouver aussi dans le projet de décret d'application qui a été passé à la consultation CNEFOP la semaine dernière, donc qui va être adopté vraisemblablement dans les semaines qui arrivent. Donc des éléments de définition de ce qu'on doit absolument trouver dans une NAFEST pour que justement elle soit qualifiée d'AFEST au titre de la loi. Deuxièmement, on vous fera on vous donnera à voir ce qui ressort de l'expérimentation en termes de d'ingénierie de mise en œuvre, donc les conditions de réussite, les points clés quand on met en œuvre une AFEST, mais là on est plus du côté de la norme de bonne pratique que de la norme juridique dont il est question ici. Et puis on vous donnera à voir aussi les effets en termes de développement de compétences et d'effets indirects que la mise en place des AFEST dans les entreprises ont permis de mettre en évidence. Alors en termes de définition, là je vais aller vite, ce qui ressort très clairement, c'est que l'AFEST peut se développer dans tout type d'univers professionnel, secteur, métier. Contrairement à une idée première qu'on peut en avoir, la FES ne se limite pas uniquement du tout à des univers industriels ou à des métiers d'exécution dans des univers industriels. On a dans l'expérimentation des univers de services, de back-office, du tertiaire, dans lesquels se sont implantés sans problème des actions de formation en situation de travail. Pour vous donner une idée, dans cette expérimentation, on avait des auxiliaires vétérinaires, des soigneurs animaliers, des jardiniers, des ouvriers qualifiés de l'industrie agricole, du textile de luxe, des agents de propreté, des assistants dentaires, des agents de l'hôtellerie et restauration, de l'industrie récréative. Donc on a vraiment une grande diversité de métiers et de secteurs. Et on s'aperçoit que la FEST, en termes d'usage, peut donner lieu à des choses très différentes. C'est-à-dire que parfois, une AFEST était circonscrite à l'obtention d'une compétence bien délimitée. Par exemple, chez les auxiliaires vétérinaires, ils s'étaient aperçus que ce qu'ils appellent la compétence de contention animale, c'est-à-dire le fait que quand la bestiole est sur la planche là, de pouvoir je peux pas vous expliquer dans le détail, mais enfin c'est une compétence bien circonscrite, et que ça, dans le cadre de leur contrat de professionnalisation qui devait aboutir à l'obtention de la certif auxiliaire vétérinaire, c'est une compétence qu'ils n'arrivaient pas à faire passer, sur lesquelles ils n'arrivaient pas à professionnaliser leurs stagiaires. Les employeurs étaient en difficulté pendant les périodes de stage en entreprise pour apprendre aux futurs auxiliaires vétérinaires cette compétence-là. Et donc ils ont décidé de mettre en place une AFEST très circonscrite à cette compétence particulière de la contention animale. Vous voyez, donc là, on était sur une AFEST très localisée en termes de compétences visées. Alors que parfois, on a eu des AFEST, j'allais dire, beaucoup plus ambitieuses, qui donnaient lieu à des parcours certifiants. On a eu par exemple des gens qui ont obtenu CLEA, donc la certification en compétences clés, uniquement par une AFEST, dans des entreprises d'insertion. On a eu des femmes de chambre qui ont obtenu un CAP femmes de chambre uniquement par une AFEST. Donc là, vous voyez, on est sur un usage de l'AFEST à des fins nettement plus ambitieuses en termes de certification. Mais là aussi, une diversité d'usages possibles. Et parfois, dernier élément de cette diversité, parfois l'AFEST, ça peut être pris comme une action de formation isolée. Parfois, elle peut s'articuler à d'autres modalités de formation. Donc, on va avoir une AFES qui va s'articuler avec du présentiel, qui va aller même s'articuler avec la formation à distance. Et on est comme ça sur la construction de parcours hybrides, enfin, qui permettent d'articuler différentes modalités de formation. Donc, une grande diversité en termes d'usage et par contre, un noyau dur, 4 invariants qu'on va retrouver dans le projet d'application qui définit ce qu'est une AFEST et qui effectivement ressortent comme des conditions de réussite sine qua non de ce type d'action de formation et qu'on a repris de ce fait dans ce qu'on a posé dans le décret d'application qui définit plus précisément ce qu'est une AFEST. Alors quelles sont ces quatre conditions? Premièrement, il faut qu'il y ait une alternance de deux séquences distinctes mais articulées et qui peuvent être réitérées autant de fois que nécessaire pour aboutir, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en amont en termes de développement de compétences. il faut que ça alterne donc deux séquences, une mise en situation de travail, par définition, hein, ça paraît évident, mais c'est important à rappeler, enfin, en tous les cas quand on est à ce stade de la définition, une mise en situation de travail qui est le plus souvent préparée, organisée et aménagée à des fins pédagogiques. Et là, cet aménagement peut relever de cas de figure très différents. Hein. Par exemple, là, dans l'EXP, dans le BTP, ça va être une entreprise qui va aller négocier avec une entreprise cliente avec laquelle elle a l'habitude de travailler depuis de longues années, avec qui elle a des habitudes de travail de confiance, que temporairement, il y ait un desserrement des contraintes de production pour que, justement, il y ait une situation de formation qui puisse s'installer dans le cours de l'activité. Puisque, évidemment, si on est en train d'apprendre ou d'expliquer à quelqu'un qui apprend, si on fait des erreurs, en termes de, ça se ressent sur la productivité, sur un espace-temps relativement limité. Voilà, ça peut être ça, une forme d'aménagement. Dans la tannerie de luxe, ça va être d'aller s'essayer pour les apprenants à la teinture sur donc des textiles de luxe, donc très chers. Donc le droit à l'erreur, là pour le coup, le droit à l'essai, il est un peu problématique. Ça va être de s'essayer à cette teinture sur des échantillons témoins, type là en l'occurrence c'était des queues de crocodile qu'on n'allait pas commercialiser derrière et qui n'avait pas du tout le risque économique pour l'entreprise. Du coup, était atténué et permettait que cette situation de travail soit transformée en situation de formation. Et puis les auxiliaires vétérinaires, oui, c'était de par exemple sur des animaux, enfin là c'était des chats en l'occurrence, d'aller chercher des chats qui étaient qu'on connaissait bien, qui étaient dociles et qui étaient bien portants et non pas malades et qui du coup voilà aussi en termes de dangerosité de l'acte professionnel a été limité. On a retrouvé ça aussi chez les dentistes, chez les assistants dentaires. Où là aussi, bon, la prise de risque peut pas être totale, puisque le patient peut pas être le cobaye de l'apprentissage totalement. Donc, une alternance de deux séquences, une mise en situation de travail aménagée, alternée avec ce qu'on a appelé, qui peut paraître un peu jargonneux, mais on a décidé de garder finalement ce terme parce que il a fini par diffuser. Au sein des OPCA qui ont été particulièrement associés à cette expérimentation, donc une séquence réflexive. Alors c'est quoi une séquence réflexive ? C'est tout simplement une séquence où on s'arrête de travailler et on prend de la distance, on prend de la hauteur et on revient sur ce qui s'est passé pendant la mise en situation de travail. Et l'objectif de cette séquence réflexive, c'est de consolider et d'expliciter les apprentissages qu'on a pu réaliser en situation. Sachant que cette séquence réflexive, elle doit être conforme à trois conditions en termes de mise en œuvre. Elle doit être animée par... Là, ça n'apparaît pas dans la loi, hein, ces trois conditions. C'est plutôt ce qui ressort de l'expérimentation en termes de bonnes pratiques. Donc cette séquence réflexive, en revanche, la séquence réflexive, elle est mentionnée dans le projet d'application. Donc cette séquence réflexive doit être animée par un tiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire cette activité de retour critique sur ce qu'on a fait, sur les erreurs qu'on a commises, sur ce qu'on a appris, si on n'est pas stimulé en termes de questionnement et guidé par une figure tierce. On ne peut pas le faire ça de manière isolée, tout seul, j'allais dire. Cette séquence réflexive doit s'appuyer sur des situations concrètes qu'on a rencontrées pendant la mise en situation de travail. Alors, pourquoi j'ai mis CFA entre parenthèses ? Parce que, justement, l'idée, c'est de dire, souvent dans les CFA, enfin souvent, en tous les cas, dans certains CFA, qui, pour autant, sur le formellement pratique, la pédagogie de l'alternance, c'est le principe même d'un contrat d'apprentissage, que d'alterner des séquences en entreprise et des moments d'apprentissage en centre de formation. Et pour autant, une des critiques récurrentes qui revient par rapport à l'offre de service de certains CFA, c'est de dire qu'il y a un cloisonnement très fort entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe dans le centre. Et qu'il n'y a pas nécessairement de synergie ou une construction un peu cohérente et complémentaire qui est pensée dans le parcours de l'apprenant. Et que quand les apprentis rentrent en centre de formation, on ne va pas forcément utiliser ce qu'ils ont appris pendant les séquences en entreprise comme le matériau pédagogique sur lequel on va capitaliser et à partir duquel on va rendre l'apprentissage possible. Et de ce point de vue-là, la séquence réflexive, elle a cette ambition. Et bien souvent, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'elle est structurée autour des incidents. C'est-à-dire que dans plusieurs entreprises, la séquence réflexive était appelée réunion d'incidents, où en fait, on allait revenir sur l'entrée par l'erreur, parce qu'il a dysfonctionné, par l'aléa, est très fertile en termes d'apprentissage, où on revient sur ce qui a bugué, et ce qui permet du coup de décomposer les choses et d'être dans une possibilité d'apprentissage. Et cette séquence réflexive a trois finalités. Première finalité, c'est ce qui vient immédiatement à l'esprit, hein, c'est de décortiquer les gestes professionnels, les manières de faire, pour être au plus près de celles qui sont conformes aux règles de l'art. Mais on n'est pas uniquement, et ça c'est important de le dire aussi, on n'est pas uniquement dans une logique de reproduction d'un geste. L'idée, c'est aussi de rentrer dans une compréhension de ce geste, de donner du sens à l'action, et pas seulement d'être capable de reproduire le geste. Et c'est à cette condition-là, d'ailleurs, qu'on va avoir accès à l'acquisition d'une compétence transversale, c'est-à-dire une compétence qui est transportable dans d'autres situations professionnelles. Ce qui suppose non seulement de décortiquer les gestes, mais aussi de déplier les raisonnements qui sous-tendent l'action. C'est-à-dire que l'apprenant comprenne dans quel but il va poser tel ou tel geste professionnel. Et ça, c'est une condition d'accès à une compréhension de l'activité professionnelle qui est absolument nécessaire. Et cette séquence réflexive, enfin, ce qui n'est pas négligeable, elle permet de mettre en mots les compétences qu'on a acquises. C'est-à-dire pas seulement d'acquérir des compétences, mais de verbaliser les compétences qu'on a acquises. Et on sait que ça, en termes d'employabilité et notamment de valeur auprès d'un potentiel employeur demain, c'est un signal très très marquant et très très déterminant dans ce domaine. Troisième condition, il faut qu'il y ait un formateur. C'est un personnage important du dispositif, un formateur qui le plus souvent était un formateur interne à l'entreprise. Mais ce n'est pas une obligation qui est posée dans la loi. Ça peut aussi être un formateur externe. Et enfin, alors là c'est pas une condition qui est spécifique à la FEST, qui est valable, j'allais dire, pour tout type d'action de formation, mais qui nous paraissait intéressant malgré tout à rappeler dans le cadre de la définition réglementaire de la FEST, parce qu'on sait que c'est une dimension qui passe souvent à la trappe et qui est pour autant une condition de réussite importante et de démarche d'amélioration continue, c'est que tout à FEST doit être accompagné d'une évaluation, d'un système d'évaluation, quel qu'il soit, qui peut aussi d'ailleurs mobiliser des évaluations en situation de travail, hein, de la même manière que la FEST mobilise les situations de travail à des fins pédagogiques. On peut imaginer que l'évaluation des résultats d'apprentissage de la FEST se fasse en situation de travail. Donc une évaluation des acquis pendant et au terme de la formation. Voilà pour les conditions de ce qu'est une AFEST et de ce qu'on doit trouver dans une AFEST pour qu'elle puisse être qualifiée telle qu'elle. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à ça avant que Fabienne enchaîne sur les conditions de réussite en matière d'ingénierie de mise en œuvre. Bon, on y reviendra peut-être plus tard si vous voulez.
Alors, on a aussi regardé, quand on a essayé de capitaliser tout au long de l'expérimentation, sur les expérimentations, hein, telles qu'elles se déroulaient au fil de l'eau, sur, en fait, qu'est-ce que ça nécessitait de mettre en place des actions de formation en situation de travail. Alors, on a identifié quand même des moments qui paraissaient relativement clés, hein, et qui différencient quelque part aussi ce type d'action de formation d'une formation qui va être délivrée à l'extérieur. Ben, notamment déjà, on l'a beaucoup évoqué, parce que l'entreprise et les acteurs de l'entreprise vont être impliqués très différemment. Et on voit que même si d'une expérimentation à l'autre, les acteurs impliqués ont pu être différents, hein, bien sûr, il y avait toujours l'OPCA, il y avait les personnes de l'entreprise, le bénéficiaire, bien sûr, il y avait toujours quasiment, ou quand ça l'a pas été, ben, ça a été un souci, le management, enfin la direction déjà bien sûr, les managers, l'équipe de travail. Enfin, on a vu que c'était une modalité de formation qui impliquait en fait aussi les collectifs. Voilà, et on parlait aussi de, Béatrice parlait de formateurs, donc celui-là il a très souvent été interne, mais parfois aussi externe, hein. Ça dépend des compétences qui étaient à acquérir, par exemple l'exemple du BTP, il s'agissait d'acquérir une compétence pour garantir l'étanchéité des bâtiments, et ce type de compétence en fait, elle se situe autour de la coordination entre les différents métiers. Donc en fait, c'était aucune entreprise impliquée ne détenait, là pour le coup, cette compétence. Et c'est un formateur vraiment externe, enfin, qui a été mobilisé là pour ses compétences, sur la compétence en question, qui a été mobilisé. Voilà. Mais voilà. Sinon, dans les autres expérimentations, ont aussi été des ressources, ce qu'on a appelé des tiers facilitateurs, qui étaient externes à l'entreprise et qui étaient des consultants ou des OF qui ont accompagné l'entreprise. Voilà, parce que dès le départ, hein, les OPCA nous ont dit, voilà, on perçu qu'ils allaient être besoin, qu'ils allaient eux et que les entreprises allaient avoir besoin d'être accompagné pour ben voilà, pour faire un certain nombre de choses, pour organiser ben ces fameuses séquences, hein, en particulier la séquence réflexive. On a vu que c'était quelque chose qui n'allait pas forcément de soi pour un formateur, enfin pour une personne interne à l'entreprise qui était souvent quelqu'un de très expérimenté techniquement, qui parfois avait déjà eu des fonctions de tuteur, hein, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, le tutorat, ça peut recouvrir sur le terrain des pratiques très très différentes et des pratiques plus ou moins réflexives, on va dire. Voilà, hein, on met plus ou moins en situation le salarié d'avoir un regard sur sa pratique. Voilà, on peut être plutôt dans un modèle de limitation, voilà, en disant ben voilà, tu vas faire comme moi, regarde comment je fais, et voilà. Avec l'action de formation en situation de travail, voilà, c'est un petit peu autre chose qu'on essaye de développer. C'est surtout partir de l'apprenant et l'amener à définir aussi sa propre manière d'agir dans une situation professionnelle donnée. Du coup, le rôle et le profil des formateurs internes, voilà, on s'est aussi aperçu que voilà, il y avait quelque chose de particulier. Donc du coup, voilà, c'était pour resituer un petit peu les acteurs, pour être voilà, et surtout redire que d'une expérimentation à l'autre, on a vu des choses un petit peu différentes. Parfois, c'est l'entreprise qui prenait plus de choses en charge parce qu'elle avait déjà des ressources en interne, des personnes qui étaient voilà, assez expérimentées en termes de pédagogie. Et parfois, les formateurs internes, voilà, qui avaient été choisis aussi pour leurs compétences techniques, ben, exprimaient le besoin d'être accompagnés sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la structuration. Parce que dans les choses, j'anticipe un petit peu, mais voilà, quand il y a forcément une étape où on doit se poser la question de quelles compétences on souhaite développer par ce type d'action, et les personnes dans l'entreprise n'ont pas forcément l'habitude d'écrire les compétences, enfin de parler aussi ce vocabulaire-là. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui nous a paru important et en termes de recommandations ou de points de vigilance, c'est que ce type d'action de formation, comme elle implique aussi beaucoup l'entreprise et qu'elle va quand même demander à l'entreprise un investissement plus important que d'envoyer une personne en formation externe, Il faut quand même bien, mais ça c'est un peu valable pour tout type d'action de formation, se poser la question au départ, est-ce que ça répond bien aux besoins ? Ou est-ce qu'on peut, est-ce que le fait de former en situation, c'est bien la meilleure solution ? Hein, c'est pas toujours le cas. C'est déjà, est-ce que ça répond bien à un besoin qui soit quand même avec un certain enjeu pour l'entreprise, hein, et on a vu que c'était le cas dans les entreprises qui ont participé, hein, souvent des enjeux de performance, de marché, voilà. Et puis souvent aussi, enfin voilà, le constat qu'on peut pas faire autrement. Hein, on ne peut pas faire autrement. On prenait l'exemple, Béatrice évoquait les zoos. Voilà, les zoos, il y a eu une expérience dans les parcs zoologiques, et leur souci, c'était de former des soigneurs, donc des gens qui sont déjà compétents dans leur métier, quand il y a un nouvel animal, une nouvelle espèce qui arrive. Et ça, ben voilà, tout le monde était d'accord pour dire que ça ne s'apprend pas, enfin, il n'y a pas vraiment de centre de formation qui va apprendre ça, et que c'est vraiment au contact, en pratiquant, aux côtés d'un soigneur expérimenté, mais souvent d'un autre zoo, du coup, que ça va se faire. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, c'est important de bien questionner l'entreprise, enfin, ou que l'entreprise se pose la question de qu'est-ce qu'on veut développer. Quelles sont les compétences qui sont vraiment importantes et voilà, qu'on ne peut pas développer autrement. Et puis, il y a aussi, dans ce pré-diagnostic, se poser la question de la faisabilité, parce que, voilà, on est dans des environnements productifs. Là, si on s'oriente vers l'action de formation en situation de travail, c'est pas pour être dans des situations simulées, hein, c'est parce qu'on pense que c'est vraiment toute la richesse de la situation de production qui va permettre tous ces aléas aussi, toutes les choses qu'on n'avait pas prévues, qui vont permettre d'acquérir les compétences, ben encore faut-il que ce soit possible. Donc il faut sans nul doute que les dirigeants soient absolument partants et convaincus de ça, hein, sinon voilà, il y a peu de chances qu'il y ait de la vraie formation dans l'entreprise, mais au-delà des dirigeants aussi l'équipe managériale, et il faut aussi que le travail soit aussi accueillant pour faire de la place à quelque chose qui soit pas que de la production, enfin qui soit avant tout une situation de formation, avant d'être une situation de production, même si on produit. Hein. Voilà, on prenait l'exemple, enfin Béatrice prenait l'exemple des vétérinaires. Chez les vétérinaires, voilà, action de formation en situation de travail, c'est un vrai animal, pas toujours gentil non plus, parce qu'il y a aussi gradation. On va peut-être commencer par des animaux gentils, et puis après, petit à petit, voilà, sur des cas plus difficiles, mais en tout cas, l'acte, il est bien fait, quoi. Hein. Et du coup, voilà, c'est comment s'assurer que ça va être effectivement possible. Et là, dans le cas des vétérinaires, c'était aussi parce que le vétérinaire lui-même ou l'assistante vétérinaire, quand il y en a une, est aussi à côté de la personne qui apprend et peut intervenir. Ou parce qu'ils ont des codes entre eux de dire si jamais tu sens que ça se passe mal, tu lâches l'animal. Voilà, mais c'est quelque chose qui est posé, cette question du droit à laisser, au tâtonnement, au droit aussi de se tromper. Mais on met en place des conditions de sécurité. Voilà. Donc ça, il faut aussi que ce soit, qu'on s'assure un minimum en amont que ça va être possible. Ça peut être aussi des questions de saisonnalité, voilà. Et puis on l'a déjà évoqué, un point important, c'est le choix et souvent la préparation, parce que ça a été très souvent le cas dans les expérimentations, avec des choix différents. Voilà, on évoquait l'AFDAS qui a choisi de passer par une certification sur une fonction aussi un peu plus large que juste former, mais vraiment, voilà, quelqu'un qui va pouvoir structurer l'ensemble du parcours, enfin qui va avoir un peu un rôle de consultant interne à l'entreprise, en fait, sur ces actions-là. Et puis, dans d'autres expérimentations, ça a été plus un tiers qui intervenait et qui réfléchissait avec l'entreprise à la mise en place et qui, en même temps, accompagnait le formateur interne qui allait vraiment avoir la responsabilité de la mise en œuvre des deux séquences dont parlait Béatrice. Voilà. Voilà, donc on en a parlé, le profil un petit peu particulier des formateurs. Alors ensuite, en termes d'ingénierie, ça implique aussi, voilà, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'étapes qui paraissaient, qui se sont retrouvées dans de nombreuses expérimentations, après avec des méthodes, des approches un petit peu différentes. On vous donnera le lien pour accéder au rapport de l'expérimentation, qui donne beaucoup d'exemples. Il y a des monographies par expérimentation, il y a une analyse transversale qui est aussi assez illustrée. Donc voilà, on vous invite à en prendre connaissance si vous voulez aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, le fait d'analyser le besoin, bon, d'identifier les compétences à acquérir, hein, c'est ce que je vous disais précédemment. Dans toutes les expérimentations, il y a eu cette phase de se dire, bon ben, qu'est-ce qui est à acquérir, voilà. Et aussi, alors ça c'est très particulier à la FEST, le point qui vient, c'est analyser, repérer, analyser des situations de travail qui vont à la fois avoir un potentiel formateur, voilà, où il y a des choses parfois un peu difficiles à acquérir qui se produisent, qui ont beaucoup d'aléas, voilà, mais aussi des formations, enfin des situations de travail qui puissent supporter, voilà, d'être transformées en situation de formation. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut prendre un petit peu plus de temps? Ça veut dire, est-ce qu'on peut, alors parfois peut-être avant d'aller sur des situations vraiment réelles, ça implique des étapes intermédiaires. Hein. Béatrice évoquait les échantillons témoins dans la tannerie de luxe. Voilà, on commence à acquérir les choses un petit peu en dehors de la production réelle, et puis on y vient petit à petit. Enfin, il y a eu de multiples façons d'organiser ce droit à l'essai au tâtonnement selon les contextes, en fait, organisationnels, productifs. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est à réfléchir en amont, du coup. Et puis, ce qui est important aussi pour les questions notamment de structuration, de traçabilité, parce que vous l'avez compris, hein, on est là dans quelque chose qui est formel. L'action de formation situation de travail, c'est formel. Donc, il y a aussi à mettre en place un parcours avec voilà, des séquences qui soient quand même réfléchies, dont le bénéficiaire, voilà, soit au courant du déroulement, hein, que là, ben, voilà, il va être mis en situation avec tel objectif, qu'il aura telle ressource à sa disposition. Voilà, discuter peut-être aussi de qu'est-ce qui se passe s'il se trompe. Voilà, et ça, c'est aussi très important, hein, parce qu'il y a aussi il peut y avoir un risque pour le salarié et des craintes du côté du salarié. Crainte aussi parfois d'être observé, puisque les expérimentations ont souvent impliqué, ben, y a la mise en situation, mais si on veut faire du réflexif après, ben, souvent il y a quelqu'un qui a observé, pas toujours, hein, des fois il y a eu d'autres manières de reconstituer les traces de l'activité sur lesquelles on va pouvoir discuter, mais voilà, donc ça implique aussi de mettre enfin, ça implique aussi l'étape qui est indiquée en dessous, c'est-à-dire que tout le monde soit bien informé, sensibilisé, et qu'il y ait aussi une certaine confiance dans ce qui est en train de se passer, hein, et qu'on est bien dans une logique d'apprentissage, dans une finalité d'apprentissage, et pas d'évaluation. Hein, ça, c'est voilà, quelque chose qui a été un petit peu délicat parfois sur la séquence réflexive. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup échangé pendant l'expérimentation, et c'est aussi un point de vigilance de bien veiller à ce que cette séquence, voilà, et pour finalité, sa finalité, c'est de conforter les apprentissages. C'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Alors ça nécessite aussi. Voilà, c'est pas évident, hein. On a tous tendance, voilà, à peut-être être dans le jugement tout de suite quand on voit, ben, quelque chose qui, voilà, que la personne fait pas comme nous on ferait. Voilà, donc ça, c'est les questions de posture des formateurs qui sont, voilà, je pense, importantes à travailler. Voilà.
Alors, il reste à peu près 10 minutes d'intervention pour continuer à évoquer la FEST. Mm-hmm. Ce que je vous propose, c'est donc 10 minutes d'échange avec la salle, et ce sera sans doute l'occasion d'évoquer les effets à la fois directs et indirects de ce type de modalité de formation.
Ok, pas de problème.
Oui, bonjour. Donc, je rappelle, moi, je suis consultante et j'accompagne les entreprises dans le développement de leurs compétences et pas mal sur la GPEC. Donc, quelque part, ça me fait énormément penser à un élément de la GPEC, puisqu'on identifie aussi les compétences sensibles et ça va être un outil, effectivement, très intéressant pour les entreprises. La question, ça, c'est une remarque. La question, c'était, est-ce que vous, sur le financement, de ces actions-là, et parce que quand on imagine, et vous avez très bien décrit les situations, ça va mobiliser plusieurs personnes. Est-ce que vous avez déjà des informations là-dessus sur le travail qui va être ralenti, deux personnes mobilisées, éventuellement une tierce personne pour accompagner, notamment pour expliciter, parce qu'effectivement, on sait bien que dans certains métiers, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu déjà, parmi l'expérimentation, vous avez pu avancer là-dessus, quoi?
Alors, il y a plusieurs. Enfin, j'entends plusieurs questions dans votre question. Il y a celle du la prise en charge de la FEST, du niveau de prise en charge de la FEST par les financeurs. Et ça, c'est un point important. Enfin, et puis c'est un point qui, par exemple, pour les OPCO, est un sujet de préoccupation très fort. Enfin, les futurs OPCO. Et il y a la question du modèle économique de la FEST et de combien ça coûte toutes les ressources mobilisables dans le cadre de la mise en œuvre de ce type d'action de formation. Tout à fait. Alors, nous, notre on n'a pas fait de chiffrage précis à ce stade du coût. Par contre, la philosophie, j'allais dire, qu'on essaye de faire passer, et dans les argumentaires qu'on a pu déployer auprès des entreprises via les OPCA et puis plus directement, c'est de dire justement que la FEST, bien sûr, ça coûte, et il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y a un coût réel, mais il faut penser en termes de logique d'investissement. Et que le retour sur investissement de la FEST, il est très important. Et c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut prendre en considération dans la manière de raisonner. Et on s'aperçoit notamment que, pour ne parler que de ça, la FEST, non seulement, et ça c'est un résultat qui est transversal à toutes les entreprises qu'on a pu voir, permet de produire des compétences à un rythme beaucoup plus rapide que d'autres formats de formation, c'est-à-dire que beaucoup nous ont dit, en gros, moi, pour former un professionnel de 1, il me faut 6 mois. Là, avec la FEST, j'en ai pour 2 mois, 3 mois maximum. Donc, il y a un gain de temps qui, lui aussi, est chiffrable, je suppose, dans un modèle économique. Et puis, si on regarde les effets au-delà de la production de compétences pour l'apprenant, il y a plein d'effets indirects de la FEST, sur une amélioration de l'organisation du travail, sur les relations avec le management, sur la cohésion d'équipe, sur la compétence collective, etc., qui sont autant de bénéfices collatéraux de la FEST, qui doivent aussi être pris en considération dans la manière dont on réfléchit et dans la manière, du coup, aussi dont on parle à une entreprise pour la convaincre de la pertinence et de l'intérêt d'aller vers ce type de démarche. Mais non, j'ai pas de chiffres à vous donner, je sais pas. Et puis c'est tellement variable selon les métiers, les secteurs, l'ampleur des compétences qui sont visées par la FEST. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont obtenu Cléa après 6 mois d'AFEST. Certains se sont formés à la contention animale du chat méchant pendant 3 semaines. Donc c'est compliqué, ça n'a pas beaucoup de sens de faire une moyenne aussi chiffrée, quoi.
Sur la question des effets, on mettra en ligne sur le site Espace Compétences les deux liens vers les vidéos que vous souhaitez. Oui.
Denis Riro, rectorat toujours, pour l'instant. Peut-être pas pour... longtemps. Merci en tout cas pour cette présentation, vraiment très riche et particulièrement intéressante. Vous faites pas référence à... Vous êtes sans doute appuyé sur des recherches, je ne vais pas citer l'approche très clinicienne du travail, de Claude, la didactique professionnelle, mais ça transparaît dans votre présentation. Je voudrais revenir sur l'évaluation en situation de travail, et notamment vous faites référence à un CAP, sans doute service hôtelier, femme de chambre. Comment, et vous dites bien que la FES n'est pas de la VAE, comment ont été évaluées les compétences professionnelles, j'imagine, mais surtout générales, de ce CAP en situation de travail, sans justement faire référence à un modèle de la VAE dont on voit bien effectivement comment ça se met en place, mais...
Je ne sais pas si je peux répondre très, très précisément. Enfin, l'originalité de cette expérimentation, c'est qu'effectivement, ils sont arrivés à valider apparemment l'intégralité du CAP et en s'appuyant vraiment sur les situations de travail qui ont été filmées, en fait. Voilà, et qui ont été... c'est en fait le visionnage de ces films qui comprenait aussi l'explicitation que la personne faisait en même temps de ce qu'elle était en train de faire et pourquoi, qui a permis, en fait, ça a été aussi une validation à distance. Enfin, il y a eu, vous pourrez retrouver la monographie de cet expé là dans le rapport, mais...
Oui, c'était peut-être parce qu'ils étaient dispensés, c'est peut-être pour ça aussi, mais dispensés des unités générales. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi vous dites ce n'est pas de la VAE. En l'occurrence, là, vous dites on s'appuie sur du réel, effectivement, une situation. Il y a de l'explicitation derrière. Elle est où la frange ?
C'est pas de la VAE déjà par essence. C'est-à-dire que la VAE, c'est l'obtention d'une certification qui reconnaît a posteriori qu'on a acquis des compétences via l'expérience professionnelle. Là, on est dans une action de formation qui a pour finalité de développer les compétences. Donc déjà, j'allais dire, en termes de repères de base, enfin, la VAE n'est pas une action de formation. Après, il peut y avoir des parcours mixtes où on fait le constat que le gap à franchir par rapport à la certification visée par la VAE est trop important et on va aller chercher de la formation et mixer un parcours de VAE avec des modules de formation. Mais déjà, en soi, je veux dire, c'est pas la même chose. Après, malgré tout, je faisais le lien parce que je pense que en termes de philosophie, la VAE et la FEST ont quand même partagé un gros dénominateur commun autour de la prise au sérieux des compétences qui sont développées en situation de travail. Et que de ce point de vue-là, c'est quand même un point de jonction très fort de ces deux dispositifs qui détonnent dans la culture française héritée de la formation professionnelle, me semble-t-il. Mais effectivement, VAE et AFEST sont deux choses très distinctes.
Alors, on a le temps de prendre une dernière question.
Rapidement, s'il vous plaît, bonjour. Par rapport à la mobilité, c'est-à-dire un individu avec son AFEST à un temps T dans une entreprise X, s'il veut changer, qu'est-ce qu'il fait avec cet AFEST-là à ce moment T? C'est-à-dire que vous avez parlé de la contention, et puis cette personne se dit, oui, le domaine, on va dire, médical ou les animaux m'intéressent, mais je veux changer d'environnement. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est fini, c'est obsolète, ou est-ce que je recommence sur notre AFES? Vous voyez, pour la mobilité du salarié de manière linéaire. Merci.
Voilà, la traçabilité. Alors, la question de la reconnaissance des compétences acquises au terme de cette AFES, mais au terme de toute action de formation, c'est effectivement une question majeure. Alors, ça a été un choix au départ de l'expé. Il y a eu beaucoup de discussions autour du fait, est-ce qu'une AFES est nécessairement certifiant ou pas? Est-ce que ça débouche nécessairement sur l'obtention d'une certification? Certains étaient plutôt favorables à cette option, d'autres non. Alors nous, on n'a pas voulu fermer l'AFES en rendant obligatoire le fait de déboucher sur une certification. Donc c'est pour ça qu'il y avait une grande diversité dans le champ des possibles, et y compris dans la manière dont on a atterri, j'allais dire, dans le décret d'application. On n'a pas rendu non plus l'obtention de cette certification obligatoire. Ceci dit, il y a cette question de la reconnaissance qui pointe et du champ de validité, comme vous dites, des compétences acquises par cette AFES. Alors là, en termes non pas de normes juridiques, mais de normes de bonnes pratiques, ce dont on s'aperçoit, Et moi, à titre très personnel, j'aurais aimé que ça figure dans le décret d'application, mais ça, c'était pas possible de loger dans cette dans l'aspect réglementaire. Mais c'est que, et là encore, c'est la FEST, mais c'est valable pour plein d'autres, enfin tous les autres types d'actions de formation, la reconnaissance, elle n'est pas nécessairement uniquement connectée à une certification. On peut trouver d'autres façons de faire exister cette reconnaissance. Alors dans la FEST, il y a déjà une forte reconnaissance par le collectif de travail. On est dans l'entreprise, que ce soit pour le bénéficiaire ou pour le formateur, le gain en termes d'estime professionnelle, de reconnaissance dans le regard de ses pairs, de l'entreprise, de l'employeur et de lui-même, des compétences qu'il possède, c'est un point important. C'est une reconnaissance qui est plus symbolique, j'allais dire, mais qui a son importance dans le vécu subjectif au travail, et on sait bien que c'est évidemment un point central. Après, autre aspect, il peut y avoir des reconnaissances qui passent pas nécessairement par la production d'un parchemin au sens de certification titre professionnel, mais qui sont sous la forme de portefeuilles de compétences, il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs modalités diverses et variées de ça, où on recense les compétences qui ont été acquises grâce à une action de formation en situation de travail. Mais c'est le cas aussi, ça peut être le cas, ça l'est pas suffisamment à mon sens, d'un stage en présentiel, d'une FOAD. Toute formation, qu'elle soit certifiante ou pas, elle doit viser à ce que existe un développement de compétences qui, derrière, est embarqué par une certification. Mais en tous les cas, la brique de base, qui est commune à tout type d'action de formation, ça doit être le développement de compétences. Et on sait que le pouvoir les nommer, les qualifier, c'est un point de reprise en main de sa propre trajectoire professionnelle qui est très importante. On avait dans l'EXPE, je m'arrêterai là, beaucoup d'entreprises, enfin pas beaucoup, mais quelques-unes d'entreprises d'insertion, du secteur de l'insertion par l'activité économique. Et on avait notamment des gens très peu qualifiés, avec des parcours professionnels et personnels compliqués, dont certains qui effectivement ont obtenu Cléa grâce à cette AFEST et pour qui ça a été un point très important dans leur parcours professionnel, et qui nous expliquait aussi que c'était pas la même chose du tout dans l'estime professionnelle qu'on a de soi-même et dans la façon de se vendre sur le marché du travail que de décrire son activité en termes de je remplis des frigos et j'encaisse des cartons, et de décrire son activité en termes de je sais sécuriser un espace de travail, j'ai une compétence en termes de gestion des flux, en termes de gestion de l'activité, et que la manière de nommer ce qu'on fait est aussi ultra déterminante dans la confiance en soi qu'on peut acquérir. Et après, évidemment, il y a un cercle vertueux qui s'installe à la faveur de ce genre de dynamique.